simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'Écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Nous abordons la lutte contre la vie chère menée à la Martinique. Et pour cela, nous allons vous diffuser un entretien qui a été réalisé le 31 janvier 2025 dernier avec Jérémy, membre du collectif Zote Pas Sel, donc vous n'êtes pas seul, collectif qui, dans cette mobilisation, lui a pris le parti de mener une lutte en justice contre le groupe GBH. Cet entretien fut aussi l'occasion pour nous de revenir sur les différentes problématiques qui leur semblent primordiales à mettre en avant concernant la Martinique et les territoires d'outre-mer. On vous laisse donc écouter cet entretien et on vient ensuite dans l'actualité des luttes. Bonjour. Déjà, merci de répondre à notre sollicitation d'interview. Je voudrais que tu commences par te présenter et présenter le collectif dans lequel tu milites.
Ouais, bien sûr. Donc, bonjour déjà et merci de m'avoir invité sur l'actualité des luttes. Donc, moi, je m'appelle Jérémy Désir et je suis cofondateur d'une association qui s'appelle Vous n'êtes pas seul, une association écologique et sociale. Et en quelques mots, c'est une association qui accompagne des personnes qui souhaitent mettre leurs compétences et leurs connaissances, alors souvent de cadres, issus donc du milieu professionnel, des salariés, au profit de la mise hors d'état de nuire du système technologique, industriel, capitaliste, qui selon nous, selon notre analyse, est à la cause, à la racine de près tous les problèmes sociaux et écologiques qu'on rencontre. Et donc on essaie vraiment de faire de coaliser ce qu'on appelle ces déserteurs. Il y en a beaucoup dans notre génération, des jeunes, on les voit qui déchirent leur diplôme ou qui font des tribunes lors de leur mise de diplôme. Donc je pense aux agros, je pense à Marie récemment qui a déserté d'une grande école d'ingénieurs pour les liens avec l'armement de son école, avec l'armement français. Et donc on essaie vraiment d'accompagner toutes ces personnes-là. Moi-même, donc j'ai quitté la finance de marché après avoir été bercé d'illusions quelques années que je pouvais la changer de l'intérieur. Je me suis rendu compte que le mieux c'était de la défaire plutôt de l'intérieur. Mais voilà, faute de collectif qui aurait pu m'accompagner pour essayer de défaire cet empire avec ma compagne et avec un autre camarade, donc qui ont déserté respectivement la logistique alimentaire et humanitaire et la data science, le big data en conseil. On a cofondé donc ce collectif qui a aujourd'hui 5 ans.
Et vous intervenez spécifiquement à la Martinique ou vous intervenez à d'autres endroits aussi?
Alors non, à la base on intervient beaucoup plus en Hexagone. Le collectif a été fondé en Hexagone et ces premières années on a été ensemble là-bas. Mais c'est vrai que depuis ça va faire 3 ans et on est sur notre 4e année avec ma compagne à la Martinique. Et donc on est un petit peu la branche caribéenne, martiniquaise du collectif. Mais ici à la Martinique, c'était jusqu'à présent beaucoup sur la question de qu'on a été assez actif.
Forcément, quand tu me parles de l'autonomie paysanne, moi, la question que je me pose, c'est celle du chlordécone, en fait.
Complètement. C'est clair que ça a été nos premières rencontres, en fait, avec des collectifs militants, ont été autour du chlordécone, ici, donc, à la Martinique, avec ma compagne, Mathilde. Donc, ça a été notamment pour la marche mondiale contre Bayer Monsanto et l'agrochimie. Donc là, c'était en 2022, en l'occurrence, quand on est arrivé en 2022. Et donc, c'est là qu'on a rencontré notamment le collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides et son président, Yvon Sérénus. On a vu qu'il y avait donc encore un combat qui était mené donc, sur le plan juridique, mais aussi sur le plan de l'accompagnement des ouvrières agricoles qui ont été empoisonnées. C'est un traumatisme qui traverse tout le monde, encore aujourd'hui à la Martinique. Et en fait, il y avait un peu une forme de résignation, on a constaté avec Mathilde, où les gens ne se battent plus, ils disent dans tous les cas c'est foutu, ceux qui ont le pouvoir, que ce soit l'État ou les industriels, ne tomberont jamais, peu importe les enquêtes toujours plus accablantes. C'est vrai qu'on est un peu dans ce contexte où à la fois c'est un trauma collectif, il y en a même qui font le comparatif, la comparaison avec la période esclavagiste, où quelque chose qui a marqué profondément pendant assez longtemps toute la population et dont tout le monde est au courant, la sensation d'impunité vis-à-vis des responsables, en fait. Et que les responsables courent toujours, s'enrichissent toujours plus, et ils ont raison de le penser. Et en même temps, voilà, une fatalité, une résignation, dans tous les cas, voilà, on est condamné à subir et à ne pas pouvoir relever la tête. Et pour commencer déjà à faire le lien avec une actualité plus brûlante, c'est là où les manifestations contre la vie chère et vraiment ce réveil, cette révolte de la jeunesse, mais pas que, encore une fois, martiniquaise, nous a vraiment galvanisés, quoi. De se dire, enfin, voilà, c'est pas mort, quoi. Il y a encore de l'énergie, il y a encore du courage, il y a encore une flamme qui brûle ici, qui n'est pas complètement éteinte, quoi, par rapport aux injustices qui sont subies à la Martinique et en Guadeloupe, dans les Outre-mer en général.
Alors justement, par rapport au mouvement contre la vie chère, vous inscrivez dans ce mouvement et au sein de ce mouvement, vous avez lancé une plainte collective. Alors est-ce que déjà tu peux nous expliquer un peu contre qui et pourquoi vous avez lancé cette initiative ?
Ouais, carrément. Donc avec Mathilde, vraiment, on était très frustrés à la fois extrêmement joués et surexcités de voir toute cette énergie se déployer depuis septembre contre la vie chère, donc menée par le collectif envers lequel on est très reconnaissant d'avoir réussi à lever tout un peuple, donc le RPRAC. Mais en fait, il faut un peu voir que la Martinique, c'est vrai que tout ce qu'on a pu voir, même en hexagone, des scènes des fois de confrontation avec la police, de blocage, de genre de choses, ça concernait surtout le centre très urbain, donc autour de Fort-de-France. Et nous, donc, on est dans les communes rurales, les communes du Nord, où ça pouvait presque passer inaperçu, en fait, le fait qu'il y avait des blocages, comme il y a quelques années, la lutte contre la profitation aussi. Le Nord, apparemment, était très épargné aussi de ces grandes grèves, de ces grands blocages, etc. Et donc, oui, on avait un peu, nous, on est loin, on n'a pas de voiture, donc on était un peu frustrés de participer d'aussi loin et de voir ces images de gens se mobiliser et ne pas pouvoir se mobiliser. Et donc, on a justement essayé de réfléchir comment nous, on pouvait se mobiliser en tant, encore une fois, que jeunes cadres, ex-jeunes cadres dynamiques, donc qui avons déserté nos postes, mais qui avons fait de longues études et qui avons été à des positions de responsabilité propulsées assez vite, qui avons des facilités certainement à faire de la rédaction, à faire des choses un peu techniques, on va dire. Et donc, on a très vite pensé à cette question qui est en fait l'éléphant dans la pièce et la pièce manquante du puzzle, la question des marges de la grande distribution, des acteurs de la grande distribution, et qui revenait souvent, mais qui était entourée d'une opacité assez folle, malgré les commissions d'enquête parlementaires, etc., qui pointaient du doigt cette opacité. Donc, rien ne se faisait depuis des années. Et ayant justement dans nos réseaux des amis Là, j'ai parlé, donc je tiens à mentionner donc Lanceur d'alerte, c'est un média et une association créée par deux amis, donc Alexandre et Maxime Renaï, qui sont précisément spécialisés dans l'assignation en justice des grandes sociétés. Donc ils ont à leur actif Lactalis, Bigard, Kering, et même des grandes fortunes comme Bernard Arnault, ont déjà vraiment sont rodés à l'exercice d'assignation de ces grandes entreprises ou de ces grandes fortunes pour publication de leurs comptes. Et donc tout est parti de là, d'assigner le plus gros acteur ici de la grande distribution, le leader du marché, qui est le groupe Bernard Ayotte, et qui en fait est aussi le groupe le plus puissant dans les Outre-mer de grande distribution, qui a des activités vraiment à La Réunion, en Guyane, en Guadeloupe, Mayotte, vraiment il est partout dans les Outre-mer, et souvent leader du marché. Donc on a décidé de s'attaquer au plus gros. Et donc tout a commencé avec ça d'abord. Donc en novembre 2024, on a assigné en justice au tribunal de commerce ce groupe pour l'obliger à publier ses comptes comme l'y oblige la loi en fait. Il était dans l'impunité totale depuis des années. Personne n'osait s'attaquer à lui. C'est le plus grand groupe privé de l'île et il symbolise, il cristallise énormément de tensions. Notamment du fait que c'est le propriétaire et le créateur de cette entreprise, de cet empire, de ce groupe qui pèse 5 milliards d'euros annuels de chiffre d'affaires. Le créateur et le directeur aujourd'hui sont donc des béquets, c'est-à-dire des descendants d'esclavagistes, de colons esclavagistes, qui ont été rémunérés grassement par l'État français à l'époque pour les dédommager de l'abandon de la traite négrière. Personnes réduites en esclavage, elles, n'ont eu aucune compensation, mais les propriétaires des esclaves, eux, en ont eu. Et donc, ouais, ils incarnent, ils symbolisent, ils cristallisent des peurs vraiment terribles. Franchement, c'est quelque chose dont on ne se rendait pas compte avant qu'on mène ces actions, de voir que tous nos proches, ma famille, donc moi j'ai de la famille en Martinique, ont une tétanie, ont une peur, et même prononcer son nom, en fait, prononcer le nom du groupe, prononcer ces trois lettres, donc GBH, pour groupe Bernard Ayotte, c'est déjà quelque chose qu'on ne fait pas, ça se fait pas, on évite de le faire. Bon, j'y reviendrai après, peut-être plus en détail. Et en fait, à la plainte collective, pour revenir à ta question, hein, c'est une longue ellipse, la plainte collective, ça c'est tout récemment, donc il y a eu on peut dire un lanceur d'alerte ou un déserteur, quelqu'un qui a voulu fuir cette guerre menée par GBH contre les pauvres, contre les ultramarins, contre les Martiniquais et contre la nature, hein, de manière générale aussi. Bon, c'est un cadre supérieur du groupe Bernard Ayotte, en janvier là, de cette année, hein, le 10 janvier, je crois, 2025, a lâché vraiment une bombe. Il a lâché des documents confidentiels donc à un journaliste de Libération pour en fait prouver, documents à l'appui, le taux de marge réalisé par GBH dans l'automobile, pour aussi prouver des ententes et des collusions avec la compétition. Et donc, suite en fait à ces révélations, avec notre avocat, Maître Renaud Portejoie, les quatre lanceurs d'alerte à l'origine, donc nous quatre à l'origine de l'assignation en justice pour publication des comptes, on a décidé de faire cette fois-ci une action pénale, donc là une plainte au pénal, pour entente et abus de position dominante. Et cette fois-ci, c'est contre X. Donc, on n'a pas visé nommément GBH, on vise la grande distribution dans son ensemble, et en faisant contre X, ça devrait mobiliser des enquêtes pour pouvoir établir l'ampleur de ces infractions d'entente et de abus de position dominante. D'ailleurs, on peut même se manger un procès en dénonciation calomnieuse, si je dis Bernard Ayotte. Donc c'est pas Bernard, c'est contre X. Là, ils sont très, très regardants, très méfiants, ils sont un peu en panique. Et donc voilà, ça c'est une plainte collective et qui a été en effet signée donc par pas mal de gens dans les Outre-mer. Donc là, on est arrivé à plus de 1000 signatures. Alors c'est pas juste des signatures, c'est vraiment des co-plaignants. Des personnes qui nous envoient leur carte d'identité, la photocopie de la carte d'identité, pardon, et le formulaire rempli de plaintes, se joignent à nous et reprennent dans les mêmes termes la plainte que nous avons déposée le 14 janvier, pas de bêtises, le 14 janvier, ouais, je crois. Et donc voilà, ça c'est une nouvelle action en justice, une plainte collective contre X pour entente et abus de position dominante. et qui, en effet, oui, concerne tous les Outre-mer, étant donné qu'au moins un acteur majeur de la grande distribution est très présent en Martinique, mais très présent dans les Outre-mer en général. Bon, pour parler de lui en l'occurrence, parce qu'il fait partie de ces grands acteurs de la grande distribution, mais il n'y a pas que lui, le groupe Bernard Ayotte, en 2023, c'est le leader de la grande distribution à La Réunion, donc c'est 27% des parts de marché, numéro 4 en Guadeloupe avec 13%, numéro 3 en Guyane avec 20%, et numéro 1 en Martinique avec 25%.
Okay.
Donc voilà, il est entre 13 et 27% de parts de marché dans la plupart des régions les plus peuplées ultramarines. Donc voilà, c'est vraiment un titan. Et donc c'est pour ça qu'en effet, il y a des personnes dans toutes les régions que j'ai citées, de La Réunion, de Guadeloupe et de Guyane, se sont jointes à la plainte collective et qui, voilà, qui n'arrête pas de monter aujourd'hui. Donc voilà, on a dépassé les 1000 il y a deux jours.
Est-ce que quand tu parles d'abus de position dominante, tu parles aussi potentiellement de collusion qu'il y aurait avec le pouvoir en place dans les Outre-mer?
Avant même notre action, en fait, avant même toutes ces effusions autour de la vie chère, il y a ce fameux documentaire là aussi que tout le monde a vu à la Martinique et dans la Guadeloupe, c'est Les Derniers Maîtres de la Martinique, un documentaire de Canal+, où en fait on constate, on voit de manière accablante et de manière vraiment limpide ce rapport entre la caste béquée, le lobby des béquets et l'État français, notamment autour de la question de la banane. On voit vraiment cette collusion de ces puissances économiques qui font vraiment le pied de grue à l'Élysée pour avoir des décisions favorables de la part du pouvoir. Il y a eu cette impunité totale des planteurs. La majorité des terres agricoles aussi, encore une fois, appartiennent aux béquets. Hein, tout appartient aux béquets. Et donc notamment la banane, la canne. Là aussi, donc, par rapport au chlordécone, j'en parle plus tôt, il n'y a eu aucune condamnation. Le groupe Bernard Ayotte, en tout cas une des personnes Ayotte, un des Ayotte, c'est lui qui a acheté le brevet pour le chlordécone aux États-Unis à l'usine qu'il produisait, qui avait fermé justement parce qu'il était déjà considéré comme cancérigène, je crois, dans les années 80. Et il avait été fermé. Elle a acheté le brevet pour le refaire produire au Brésil, je crois, du moins en Amérique du Sud. Et le commercialiser encore dans les Antilles françaises, alors qu'on savait, et le répandre, alors qu'on savait, les États-Unis savaient, avaient arrêté de produire. Et donc, pareil, voilà, cette personne, Ayotte, n'a jamais été inquiétée par les autorités. Donc, il y a eu vraiment une accumulation de preuves et voilà, qui démontraient cette collusion. Moi, une, par rapport à notre affaire précisément, qui m'a beaucoup choqué, qui nous a beaucoup surpris avec ma femme, avec Mathilde, qui est le fait que normalement, c'est le président du tribunal de commerce de Fort-de-France, dont c'est le travail de assigner des entreprises en justice pour non-publication de leurs comptes. Mmh. Et d'autant plus des grosses entreprises comme GBH. Et le truc, c'est que donc, ça fait déjà des décennies que cette profitation existe, qu'il y a eu plusieurs luttes, notamment en Guadeloupe, le LKP en Guadeloupe 2009, si je ne dis pas de bêtises, ça qui déjà voilà, dénonçait ces abus et ces prix complètement délirants qui étaient subis par les populations ultramarines. En 2023, la commission d'enquête Johnny Hajjar, qui là aussi révèle des opacités sur les marges, sur les prix, les formations des prix, etc. Donc toutes ces choses-là se passent, et il n'y a aucune décision vraiment forte prise par les autorités. Et là, on est en septembre 2024, un mouvement social d'une ampleur inédite en Martinique se produit, qui dure pendant des jours, des semaines, des mois. Et pareil, personne ne bouge au niveau de l'État, au niveau des services de l'État, tels que, là en l'occurrence, le tribunal de commerce, dont encore une fois, c'est le métier, c'est le travail du président du tribunal de commerce, d'assigner des entreprises pour les obliger à publier leurs comptes. Et là, les comptes ne sont pas publiés et cette personne ne moufte pas. Pour moi, ce sont des silences et des passivités qui sont presque équivalentes à de la complicité.
D'après ce que j'ai pu comprendre, vous aviez une audience le 23 janvier dernier au sujet de cette plainte. Comment est-ce que ça s'est passé?
Donc, on a eu une audience le 23 janvier dernier. Alors, en effet, donc, c'est déjà trois fois qui repoussait. y a eu des reports, pardon. Donc, bon, il y en a une fois, c'était nous, en décembre. Déjà, on avait fait un report parce qu'ils nous promettaient, justificatif à l'appui, d'avoir déposé leurs comptes sociaux, enfin, leurs comptes tout court au départ. Et en fait, ouais, on avait un doute que ce soit des comptes sociaux. On avait donc, c'est-à-dire juste les comptes de la holding GBH et non pas les comptes consolidés, c'est-à-dire qui concernent toutes ses filiales. Et on avait des forts doutes par rapport à ça. Et du coup, donc, on a demandé un report en janvier, le 23 janvier. Et le 23 janvier, donc le jour même, je crois, ou même peut-être la veille, le groupe Bernard Ayotte, pareil, nous donne un justificatif comme quoi ils ont bien déposé leur compte consolidé cette fois-ci pour toutes les années qu'on demandait, donc de 2018 à 2023. Mais voilà, on n'a toujours pas ce jour-là, et même encore à l'heure d'aujourd'hui où je parle, donc là on est le 30 ou 31 janvier je crois, on n'a toujours pas la main sur ces comptes consolidés. Mais donc ça aurait dû être quelque chose qu'en un clic, en deux secondes, ils le publient. Et en fait, ils attendent à chaque fois le dernier jour. Donc là, ben, on a dû redemander encore un report, donc au 13 février, ce sera étudié le 13 février, qu'on puisse normalement là, d'un jour à l'autre, à tout moment, les comptes seront effectivement publiés en ligne. Et n'importe qui, nous, le président du tribunal de commerce, le juge, n'importe quel citoyen, en fait, pourra accéder à ces comptes pour Bernard Ayotte consolidés. Donc voilà, normalement, on est un peu dans cette attente-là, mais en tout cas, on est assez fiers quand même, on est assez heureux d'avoir réussi à leur tordre le bras en quelque sorte, et à montrer aussi qu'il y avait cette impunité, cette violation de la loi depuis des années. Personne ne s'est jamais inquiété de savoir quel était le niveau de marge et les bénéfices réels produits par le plus grand employeur privé de l'île et le leader de la grande distribution de tous les Outre-mer, alors que la vie chère, ça fait longtemps quand même qu'on entend parler. Et donc là, aujourd'hui, voilà, ce temps de l'impunité a l'air d'être, et du moins de l'opacité financière, semble être un peu révolu. Mais voilà, là, on attend toujours du coup la publication effective des comptes qu'ils promettent, justificatif à l'appui, avoir déposé auprès du greffier, je crois, justice. Ce qui est assez scandaleux et que le R, donc Roderick Petitot, a relevé, quand il a été libéré, donc le leader du RPRAC a été libéré là, suite à une détention provisoire, donc il a passé 2 mois en prison en attente de jugement. Il a révélé en étant libéré donc il y a quelques jours, moi j'ai pas pu bénéficier d'autant de recours. Moi, on m'a considéré présumé coupable, on m'a mis tout de suite en prison en attendant mon procès, là où des grands acteurs, des grandes puissances d'argent comme GBH bénéficient de recours et de recours et de recours, qui au final, bah, voilà, de fait, va certainement amener à une non-condamnation. Ils ne vont pas être condamnés parce qu'ils auront en effet publié leur compte. Mais en fait, on a fait la démonstration que depuis novembre, les jours où on les assigne en justice, les comptes n'étaient effectivement pas publiés, alors qu'ils ont prédit en eux le contraire. Ils ont dit si c'est publié. Il faut bien comprendre que nous, en novembre, on était considérés comme des clowns. Hein. Personne ne nous croyait. Mais évidemment, un grand groupe comme GBH, les comptes sont publiés. Et en fait, au fur et à mesure, des mois qui passent, des semaines qui passent, et voilà, on a réussi à démontrer l'ampleur de l'impunité dont ils bénéficiaient. Et que d'autres militants, eux, ne bénéficient pas d'une telle attitude de la part des autorités.
En fait, vous avez commencé à lancer vos actions en justice à partir du mois de novembre, quand, en réalité, dans les médias hexagonaux, à partir de la fin du mois d'octobre 2024, a plutôt été mis en avant qu'un protocole d'objectifs avait été signé concernant les moyens de lutte contre la vie chère. Et donc, nous a été à nous donner l'image d'un conflit résolu, quelque part. Et donc, par rapport à ça, je voulais voir, en fait, comment est-ce que vous aviez interprété cette signature de protocole, puisque on voit bien que vous n'avez pas du tout cessé de vous mobiliser par la suite, même plutôt l'inverse.
Déjà, d'un point de vue donc du RPRAC, je me fais un relais là aussi un peu approximatif de ce qu'a dit le RPRAC. En gros, cet accord ne concernant qu'une certaine famille de produits, un pourcentage assez restreint, et non pas la totalité des produits alimentaires. Eux, c'était vraiment tout l'alimentaire, ce que le RPRAC, donc encore une fois, le mouvement qui a initié cette lutte contre la vie chère et ses trois leaders qui étaient aux tables de négociation avec la grande distribution, l'État, la CTM, la région, Martinique, etc., ont refusé de signer cet accord parce qu'ils disaient que c'était juste donc certaines proportions et non pas le tout. Et du coup, en baissant les prix sur certaines proportions de produits, ils allaient augmenter les prix. Rien ne les empêchait d'augmenter les prix à la grande distribution, d'augmenter les prix sur ce qui n'est pas concerné par l'accord. Voilà, donc on comprend, mais imaginons c'est la moitié. Si je baisse d'un euro une moitié et que j'augmente d'un euro l'autre moitié, on en revient au même en fait. Le coût de l'alimentaire pour les Martiniquais et Martiniquaises ne va pas changer en fait. Et c'est ça l'objectif, c'est quand même de réduire le poids de ce panier alimentaire pour la population martiniquaise, en rappelant que il est en moyenne 40%, et certains disent que c'est même une sous-estimation, il est en moyenne 40% plus cher à la Martinique que dans l'Hexagone, le panier alimentaire, ça c'est l'INSEE qui le dit, mais ça peut aller jusqu'à 200% de différence, notamment sur l'eau. Et quand on sait qu'on a des problèmes aussi, nous souvent, et encore plus en Guadeloupe, de coupure d'eau, c'est là qu'on voit vraiment la prise d'otage en fait de ces prix complètement délirants. Et en plus, la population martiniquaise est bien plus pauvre que la population hexagonale. Donc c'est vraiment double peine, quoi. On a moins de rentrées d'argent et on paye plus cher. Donc ça, c'est pour le RPRAC. En ce qui nous concerne, pourquoi est-ce qu'on continue à se mobiliser? C'est qu'encore une fois, on va dire qu'il y a trois leviers principaux pour baisser les prix. A priori, trois leviers ont été identifiés pour baisser les prix. Il y en a deux côté public, donc la région Martinique, on appelle la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, et plus largement en fait les communes, donc les différentes communes de la Martinique qui ont des impôts locaux, donc on appelle l'octroi de mer, c'est un peu les impôts locaux des communes, c'est comme ça qu'elles se financent en partie, et qui sont donc des taxes sur les produits importés. Donc il y a ça, il y a la TVA, donc ça c'est plutôt l'État à l'échelle vraiment hexagonale, enfin c'est Paris quoi, c'est vraiment les taxes qu'on récoltait à Paris. Ça c'est les deux leviers sur lesquels le public, on va dire les deux leviers publics sur lesquels ces acteurs-là, la CTM et l'État, se sont engagés à réduire, même à mettre à la TVA à 0%, et mettre l'octroi de mer aussi quasiment à 0%, en tout cas le baisser fortement. Donc voilà, hop, gros levier actionné vers le bas. La grande distribution en face, donc le troisième levier, le privé, nous dit, on fait déjà notre max, on ne peut pas baisser les prix plus que ça, nous avons quasiment zéro marge, on a 1% de marge, on est déjà le plus faible taux de marge imaginable par rapport à l'Hexagone, voilà. Donc, mais en même temps, on garde nos marges cachées. On ne peut pas vous les donner, mais on vous dit qu'elles sont les plus basses possibles. Donc, c'est là où il y a un loup, où il y a une volonté de dissimuler quelque chose. On ne peut pas aboutir. Il y a une pièce manquante dans l'équation, une donnée manquante. Et en fait, tout ce qui va ressortir de ce calcul et de cette solution de négociation ne pourra que être bancale, étant donné que cette pièce essentielle est manquante. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous, de notre côté, avec mes camarades, donc Maxime, Alexandre et Mathilde, on continue évidemment de se mobiliser tant qu'il n'y a pas une transparence totale sur le niveau de marge de la grande distribution. On ne pourra pas avancer et toutes les négociations seront vouées à l'échec.
Yeah. Soi-disant égalité, fraternité. Que nous français, y'a qu'à y'a qui menti ban nous. En cas ouais, combien iniquité, combien inégalité. Y'a les tués nous, mais nous c'est des guerriers. Nec marron, toujours élevé. En bonne volée, en bonne profiteur, en bonne menteur, pour nous pour des vaches à lait. Peuple a qu'à souffre. En bonne volée, en bonne profiteur, en bonne menteur, pour nous pour des vaches à lait. Peuple a souffert, la vie a trop cher. L'esclavage pas jamais fini. Nous pas j'ai payé au aïe et pour qui c'est nous y aura.
marché, pipe la levé mouche rouge. Ça y a chez chéa, y a trouvé. Bani la vie, mais sans diffé. En bonne volée, en bonne profiteur, en bonne montée, pour nous pour des vaches à lait. Peuple a qu'à souffert. La vie a trop cher. En bonne volée, en bonne profiteur, en bonne montée, pour nous pour des vaches à lait. On nous arrêtait par les richesses là, ceux qui nous oppressent là, 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 là. Pour dicter local, bah y'ont pièces là, pour mieux gérer business là, 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 là. Mais il n'y a pas que la vie chère, mais la violence. Vol de terre, encore des gonnes et manigances. Un manque d'or, et notre jeunesse qui se barre en France. Encore des politiciens assument les conséquences. Et on vote pour des volets, en bonne profiteur. En bonne montée, pour nous pour des vaches à lait. Peuple a qu'à souffert. La vie a trop cher. En bonne volée, en bonne profiteur. En bonne montée, pour nous pour des vaches à lait. Peuple a qu'à souffert.
On continue de vous diffuser pendant toute cette heure l'entretien que nous avons réalisé avec Jérémy, membre du collectif Zotpacel à la Martinique. Au-delà même de cette plainte, je voulais te demander, selon toi, selon vous, quels seraient aussi les autres moyens nécessaires aussi pour construire un rapport de force, puisque je suppose que vous avez aussi quelque part bénéficié du rapport de force qui avait été construit dans la rue ces derniers mois.
Complètement. C'est tout à fait vrai, et c'est vrai que en fait, je ne l'ai pas assez rappelé, mais c'est évident que notre action, on n'aurait peut-être même pas eu l'idée l'avoir sans cette mobilisation intense des gens qui ont pris des risques, qui ont des fois voilà, quitté leur boulot, qui ont pris des jours de congé, qui ont fait grève pendant des semaines, pendant des mois, qui étaient sur des barrages mobilisés, à bloquer des routes, à bloquer des accès à des centres commerciaux et au AirTrack, évidemment. Donc, non seulement on n'aurait peut-être pas eu l'idée, probablement pas eu l'idée, mais en plus, on aurait certainement, ça c'est évident, pas eu cet écho et ce relais médiatique sans ces mobilisations contre la vie chère, pour le coup, sur le terrain de la rue, quoi. Donc, auxquelles nous, on ne pouvait pas avoir accès pour plein de contraintes personnelles. Donc c'est clair, pour la deuxième partie de ta question, que vraiment, les mobilisations ont été déterminantes pour même aussi mettre la pression, on pense, au service de l'État et traiter sérieusement cette plainte. Voilà, ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui les regardent et évidemment, ça a un poids. Où là, maintenant, on pourrait dire que le mouvement s'est un petit peu essoufflé, avec notamment le leader qui a été mis en prison pendant 2 mois. Là, il vient de sortir à l'instant. Et c'est vrai que voilà, on a l'impression d'avoir un peu redonné un petit souffle avec cette action et avec... voilà, qui a été relayé jusqu'au ministère de l'Intérieur, hein. Même Manuel Valls s'y met pour dénoncer ce qu'il appelle l'étouffement de l'économie martiniquaise et ultramarine en général par certains acteurs très puissants. Là où on pense qu'il faudrait continuer le combat, ce serait donc en formant déjà des militants. Je pense que c'est important que dans le discours que tiennent certainement... pas que le AirTrack, mais les personnes qui s'investissent beaucoup dans cette lutte contre la vie chère, à mettre vraiment l'attention, enfin selon nous, hein, ça c'est vraiment notre vision, à mettre l'attention sur la nocivité de la grande distribution en tant que telle. Et c'est vrai que des fois on peut entendre un discours, enfin voilà, comme pendant les Gilets jaunes, il y a plusieurs discours qui politiques, plusieurs idéologies et courants politiques qui s'affrontent, on va dire en bafeille, en sous-marin, dans cette lutte contre la vie chère. Il y en a certains qui pensent qu'on pourrait se réapproprier la technologie industrielle, capitaliste, d'import-export, de grande distribution, les ports containers, est-ce qu'on ne pourrait pas faire venir nos propres ports containers, nos propres containers, est-ce qu'on ne pourrait pas créer des centrales d'achat martiniquaises, afro-caribéennes. Donc il y a un peu une tendance, hein, je ne sais pas à quel point elle est massive ou pas, mais de se dire que voilà, c'est juste un problème d'usage et de propriété de l'outil de production, de l'outil d'acheminement, etc. Il est dans une mauvaise main par des gens qui en profitent. Mais si nous, afro-descendants, afro-caribéens, noirs, hein, pour le dire simplement, si nous, en tant que personnes noires, peuple noir, on arrive à se mettre à la tête de ces empires, on le fera forcément mieux, de manière plus égalitaire, plus équitable. Or, je pense qu'absolument pas, comme on l'a dit avec Mathilde dans notre entretien médiatique le 23 janvier pour la dernière audience en date contre UBH, le monde de la grande distribution, cette industrie incarnée par la grande distribution et le complexe agroalimentaire en général, c'est un monde qui est fait de porte-containers, qui est fait de parking, qui est fait de monoculture, qui est fait de pesticides. Et ce sont des choses qui nous empoisonnent, qui empoisonnent notre air, notre eau, qui nous contaminent et qui en plus uniformisent totalement le monde. Il y a les mêmes produits qui sont de Saint-Denis à Cayenne, en passant par Pointe-à-Pitre et la Martinique, Fort-de-France. Et donc, c'est à la fois une uniformisation du monde où les mêmes produits industriels sont vomis partout sur la planète, qui sont en plus de mauvaise qualité, qui nous empoisonnent et qui tuent notre autodétermination, notre production locale, notre production paysanne et artisanale. Et donc, pour nous, une des premières étapes décisives pour être victorieux, véritablement victorieux, et pas juste avoir une baisse des prix sur des produits de mauvaise qualité qui viennent de l'autre bout du monde, pour être vraiment victorieux sur cette bataille et cette force qui a été initiée ici à la Martinique, selon nous, il faut déjà bien identifier le problème. Ce n'est pas juste parce que les béquets sont propriétaires de la grande distribution qu'il y a un problème, mais c'est parce qu'il y a la grande distribution qu'il y a un problème qui nous dépossède complètement de nos moyens d'agir, de nos moyens de décider collectivement de ce qu'on veut manger, etc. Et qui enlève de la force à la petite paysannerie, évidemment, qui est en concurrence avec des produits qui viennent du monde entier, faits dans des conditions parfois abominables. Donc c'est vraiment toute cette machinerie en fait qu'on aimerait mettre en lumière et qui devrait être mise en lumière pour que une fois qu'on l'a bien analysé le problème, qu'on a visé le problème, on puisse tirer. Une fois qu'on a visé, on tire. Et tirer, ça veut dire perturber, bloquer et à terme certainement mettre hors d'état de nuire tous les rouages matériels, physiques. De cette chaîne en fait qui nous tue, qui nous exploite, qui nous tient par le ventre en fait et qui verrouille toute alternative. Ici c'est très prenant, comme je pense dans beaucoup de campagnes françaises, mais ici il y a vraiment cette ruralité et ce rapport aux plantes aussi qui est vachement hérité de l'ancestralité amérindienne, africaine. Donc la Martinique est vraiment au croisement de plusieurs cultures continentales, de fait de son histoire esclavagiste. Et y a vraiment un rapport aux plantes, au monde vivant, à la forêt, aux rivières ici, qui est très puissant, très profond. Un respect et une connaissance même intuitive de n'importe qui sur quelques plantes médicinales un peu basiques. Et c'est vrai que tout le monde a en tête, tout le monde sait très bien les formes que pourraient prendre des alternatives saines, respectueuse du vivant, véritablement écologique, vraiment connectée à la nature, et où on pourrait décider ensemble de ce qu'on veut mettre dans nos assiettes, de quelle force on veut donner à tel paysan, à tel artisanat, à telle chose. Et tout le monde le voit très bien, mais ça en fait, on ne voit pas assez que ça, cette culture qu'on a, à la fois une culture et un rapport à la nature très particulier, très intense, c'est broyé, c'est tué, et à terme, ce sera complètement exterminé grande distribution et qu'elle soit dans les mains d'un béquet ou dans les mains d'un noir, c'est la même technique, en fait. Et c'est pas qu'en Martinique, hein, c'est vraiment un débat qui est pas assez posé, selon nous, dans les milieux écologistes, même en France. C'est pas dominant, voilà, pour faire une ellipse, mais voilà, c'est vrai qu'en France, c'est beaucoup, le débat écologique dominant, c'est beaucoup plutôt panneaux solaires ou plutôt nucléaires. Et ça va pas beaucoup plus loin, et ça voit pas que, bah, voilà, que ce soit un panneau solaire ou une centrale nucléaire, on ne maîtrise rien de toute la chaîne de production, de tous les matériaux, de toutes les composantes et tous les pouvoirs militarisés qu'il y a derrière chaque petite composante de ces outils. Il y a un pouvoir militaire, il y a un pouvoir très autoritaire derrière, avec lesquels l'État français collabore ou même est principalement actif.
Pour finir cet entretien, j'en profite alors pour te demander peut-être de revenir un peu justement sur le combat que vous menez au niveau des salines.
Super, ben, ouais, merci beaucoup de me laisser cette occasion de parler un peu plus de nos combats plus larges. Avant la vie on pourrait dire, hein, et en effet les salines, donc on a été cofondateur du collectif Sauver la vie saline. Donc au départ, c'est un collectif un peu informel qui prend son point de départ dans les années 70 où déjà les premières assos écologistes en Martinique défendaient ce site ultra-touristique. C'est à la pointe extrême sud de l'île. C'est un peu loin pour nous, c'est un moment de rouge dans le nord. Mais donc c'est la pointe extrême sud de l'île qui est la plus touristique de Martinique. C'est plus d'un million de visiteurs annuels. C'est énorme, c'est même un des points les plus visités de France en général en fait. Ben évidemment, il y a beaucoup de prédation, beaucoup de pression agricole, et donc des rejets de pesticides, parce qu'il y a une assez lourd, parce qu'il y a une production de melons pas très loin, dans le bassin versant, des pressions foncières, des pressions touristiques, etc., et aussi beaucoup d'entrepreneurs, de promoteurs immobiliers, pardon, qui veulent construire. Et donc voilà, on a créé ce collectif pour formaliser un petit peu cette volonté de défense des salines, mais aussi pour lui donner des droits, en fait. Et, on a été accompagné par un avocat, docteur en droit, qui est spécialisé sur la question des droits d'environnement, Victor David, et qui avait donc fait un travail similaire en Nouvelle-Calédonie pour permettre aux îles Loyauté, si ma mémoire est bonne, aux espèces vivantes des îles Loyauté, notamment les requins et les tortues, d'avoir des droits en fait comme n'importe qui, et pour justement augmenter leur niveau de protection et donc pourra l'inscrire dans la loi, etc. Donc nous on a rédigé une déclaration des droits des salines et qui voilà devait, à force de plaidoyer, à force d'action de mobilisation citoyenne, à force de récolte de données scientifiques, etc., etc., pouvoir s'inscrire dans la loi et être pérennisé en fait et créer une sorte de parlement des salines. Voilà, on était cofondateurs de ça. Donc on a beaucoup aidé à ça. Et là on essaie un peu de se mettre en branle un petit peu. C'est un peu compliqué, ouais, de bien solliciter tout le monde. Tiens aussi à évoquer donc rapidement la DIPA, avec laquelle aussi on travaille beaucoup en ce moment. Donc c'est la défense des intérêts des petits agriculteurs. Donc ça c'est une association de petites paysanneries dans le nord de la Martinique. Là aussi qu'on essaye d'aider dans toutes les démarches un peu administratives, refaire leur statut et surtout à faire venir des jeunes en fait, parce que c'est voilà, la population est vieillissante, il y a très peu de jeunes, hein, la Martinique c'est la plus vieille, le plus vieux département de France, hein. C'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais vu que les jeunes sont incités à partir faire leurs études en France hexagonale, et ben souvent ils ne reviennent pas derrière, et donc voilà, la population est vieillissante, et toute la question de reprise des terres agricoles qui est déjà très prégnante en France, se pose encore plus ici. Faire vivre une petite paysannerie vivrière qui nourrisse vraiment la population et non pas la production industrielle de canne et de bananes qui part à l'export, évidemment. Donc c'est un véritable enjeu, donc on essaie vraiment de donner de la force à tout ça. Donc on a refait les coups de main aussi, donc les chantiers agricoles participatifs, on a relancé tout ça, donc on est très impliqués avec eux. Et enfin, ouais, le collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides, donc j'en parlais un peu plus tôt, des personnes d'un certain âge, la plupart à la retraite, et qui, qu'on essaye d'aider là aussi sur tout ce qui est communication, donc d'aider autant qu'on peut pour donc réparer, notamment apporter une réparation et justice aux victimes d'empoisonnement par la chlordécone de ces ouvriers, ouvrières agricoles. C'est un peu les collectifs et les combats sur lesquels on s'est impliqués, avec Vous n'êtes pas seul, ces dernières années.
Alors, si je peux me permettre, j'ai l'impression qu'au final, cette question sur la grande distribution, mais rejoint en fait aussi complètement le combat sur les salines, au sens où la question c'est aussi comment est-ce qu'en fait on produit de la valeur sur un territoire et comment est-ce qu'on occupe ce territoire. Et qu'en fait, ça remet en cause aussi le fait d'avoir une économie, bien que ça ne l'exclue pas, plutôt sur une histoire d'équilibre, ça remet en cause le fait d'avoir aussi une économie qui va être un peu trop tournée vers le tourisme, et donc finalement vers des personnes qui font des allers-retours, plutôt que vers la population qui habite véritablement ces territoires.
C'est tout à fait ça. C'est vraiment une question qui traverse peut-être toutes les luttes contemporaine. La question, je pense, de l'autonomie, donc se créer nos propres règles, en fait, et la question de la dépendance à une forme de pouvoir, à une autorité qui souvent a pris des décisions bien avant notre naissance et qui, dont aujourd'hui on continue à subir les conséquences, que ce soit de faire de la Martinique une plateforme touristique pour la France hexagonale, avec toutes les conséquences que ça peut avoir en termes de pression urbaine, de pression de construction, d'hôtels, de complexes, de supermarchés, de routes, mais aussi de déchets, donc la gestion des déchets qui est apparemment une catastrophe aussi. J'ai même pas vraiment creusé, mais du peu que j'en vois, c'est... Il y a une pression écologique vraiment très forte sur la Martinique, elle n'est probablement pas en capacité d'accueillir, parce que ce sont des décisions qui ont été prises, encore une fois, de manière très autoritaire par l'État français à un moment dans l'histoire, en petit comité. La population martiniquaise n'a pas été consultée pour ça. Mais aujourd'hui, on est en lutte et on se débat avec les conséquences de cette histoire et de ces choix qui ont été faits. Que la Martinique serait la moitié de la surface agricole utile de la Martinique serait utilisée pour la canne et la banane à l'export. Ça aussi, ça n'a pas été décidé par les Martiniquais et Martiniquaises, l'empoisonnement des sols non plus. Je pense que, comme tu dis, la transversalité entre ces combats, c'est vraiment au-delà, en fait, qu'on soit indépendantiste ou pas, même si on reste une région française, comment est-ce qu'une région française peut aussi créer ses propres lois, en fait, être autonome? Et donc se décider, on privilégie de nourrir notre population, la population qui vit aux Antilles, à la Martinique, toute l'année. On va privilégier l'utilisation des terres agricoles, l'utilisation du foncier et l'utilisation de nos moyens, de nos ressources, notre énergie en tant que peuple à ça. Tel va être notre objectif, notre priorité. Et en secondaire, accueillir du monde, accueillir des touristes. Mais voilà, si on décide de ça, quelles vont être les conséquences donc sur l'occupation des terres, sur les emplois qui vont être réalisés ici. Et pour nous, c'est vrai que ça pourrait régler plusieurs problèmes en un, de remassifier les campagnes, remassifier la classe paysanne, qui est beaucoup moins de postes administratifs et de postes dédiés au tourisme ou à la restauration, je ne sais quoi, mais beaucoup plus de personnes qui vont effectivement cultiver des terres ou même qui vont occuper des terres. Il y a plein de terres qui sont inoccupées parce qu'il y a des problèmes d'héritage, ce genre de choses. C'est ça le véritable enjeu et ce qui permettrait de résoudre à la fois la question de la vie chère, la question des pollutions, la question du chômage, qui est massif, et la question de la dignité, en fait, en général.
Écoute, je vais te laisser le mot de la fin.
Je t'en remercie beaucoup de ton temps et de ton intérêt aussi à ce combat que certains pourraient croire un peu périphérique. Et qu'au final, je pense, peut-être que ce qui se passe en Martinique et dans les Outre-mer en général pourrait un peu préfigurer, être un peu une inspiration, on espère, des luttes en France. certains disent que les gilets jaunes ont été donc un peu la dernière grande lutte d'ampleur décentralisée qu'il y a eu en France. En fait, la répression qui se sont abattues sur eux était un peu celle qu'ont subi les banlieues françaises des décennies avant. Mais les banlieues françaises aussi, les techniques de répression utilisées dans les banlieues françaises sont des techniques qui ont été éprouvées dans les ex-colonies et aujourd'hui territoires ultramarins. Et donc la manière dont peut-être nous luttons contre ces oppressions, contre ces répressions et ce manque d'autonomie, la question coloniale, donc de dépendance à des puissances d'argent, des puissances étatiques, qui conditionne un mode de vie, en fait, c'est des questions qui se retrouvent partout, là où le capitalisme industriel et le système technologique se sont imposés. Et donc, certainement que notre manière de lutter et notre détermination, notre courage pourra en inspirer d'autres.
Et toujours dans l'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. On termine donc cette émission en vous laissant écouter un petit montage dans lequel vous entendrez d'une part l'avocat de Rodrigue Petitot à sa libération, puis la première prise de parole de Rodrigue Petitot lui-même. On vous laisse écouter ça et on vous dit à demain dans l'actualité des luttes de midi et demi à 13h30.
Vous avez le droit de penser, nous avons tous le droit de penser, et je dirais même que nous avons aussi le droit d'exprimer sa pensée. Nous observons aujourd'hui qu'il y a à l'Assemblée nationale un sujet qui a été mis sur la table par celui qui est aujourd'hui incarcéré. Nous comprenons alors que maintenant nous devons basculer dans une autre ère, et cette ère, celle qui est celle de la fin de la peur. La fin du complexe d'infériorité que d'aucuns ont voulu pendant si longtemps nous mettre. Ah ben, c'est terminé tout cela. Et c'est notamment grâce au travail de M. Rodrigue Petitot.
On a un nouveau Premier ministre. Il doit venir ici. Il doit parler avec nous. Et ça, c'est pas une injonction, c'est pas une menace, c'est une demande. On va aussi faire par courrier, puisqu'on m'a reproché de ne pas avoir fait les courriers. On va faire par mail. Mais je fais une première demande à M. Manuel Valls, aujourd'hui, jour de ma libération, de venir rencontrer le RPAC, le peuple martiniquais, les élus et les syndicats, qu'on puisse approfondir ce qui est déjà commencé et avoir de vraies réponses, pas des simulacres. Pas des dossiers qui ont été proposés déjà depuis 2 ans en arrière et qu'aujourd'hui qu'on nous rappelle que c'est du réchauffé. On veut du vrai, on veut que les commerçants qui ont subi tout ce qu'ils ont subi depuis septembre soient exonérés de certaines charges, mais que ce soit clair. J'ai entendu que certaines mesures ont été prises, mais je veux que ce soit clair. Je veux que tout le monde soit assis au même endroit, autour de la même table. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est la CTM parce que c'est la maison du peuple. Pour qu'on puisse enfin travailler dans un cadre avec une vraie vision sur ce qu'on veut. C'est important. J'ai entendu des annonces. Je veux bien offrir ce qu'on ne nous offre jamais, le bénéfice du doute. Je veux bien l'offrir sur les annonces. Mais aujourd'hui, on a dépassé le stade des annonces. Il nous faut du concret. Je vois que le groupe GPH est déjà allé 2 fois devant le tribunal. Et que 2 fois l'affaire est renvoyée. Moi, mon affaire n'a pas été renvoyée autant de fois. J'ai été à du poste, ça n'a pas été renvoyé autant de fois. Donc j'aurais aimé que la balance soit équitable. Et là, ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas une question de statut, c'est une question de soi-disant liberté, égalité, fraternité. Je veux encore leur accorder le crédit, mais qu'ils fassent ce qu'il faut. Aujourd'hui, on m'a mis sous bracelet, j'accepte. Même si je ne me sens pas coupable, d'avoir lutté pour voir un ministre. Aujourd'hui, je fais la demande à M. Manuel Valls, au nom de l'Europe, au nom du peuple, qu'il puisse venir au plus vite, qu'on puisse faire une vraie table ronde, pas sur 24 heures, 48 heures, et mettre les choses en place tout de suite. Pas sur 6 mois, 1 an. pas des promesses de baisser comme là où on voit que ben, finalement, il n'y a pas de gouvernement. Donc en fait, la TVA, on ne sait pas encore. C'est aussi ça le problème. Le cadeau de voir attendre que déjà 8000 km prennent des décisions pour nous. Nous ne sommes pas des bébés. On bataille, c'est le peuple, pour le peuple, pour le peuple.
West Indies. Music Lover. Martinique, Guadeloupe, Kanaky, Guyane, Mayotte. Réunion, tout peuple qui n'a pas respecté. Lévé. Martinique, Guadeloupe, Kanaky, Guyane, Mayotte. Réunion, tout peuple qui n'a pas respecté. Lévé. Ayangouyo, plus force pour que nous rester debout. Ayangouyo, yo les briser avant nous. Ayangouyo, mais faut que nous briser chaînes en nous. Ayangouyo, oh oh. Ensemble, continuez avancer, continuez lutter pour nous être libres et commencer à rêver. Ensemble, continuez lutter, continuez avancer pour nous être libres et réaliser. Martinique, Guadeloupe, Kanaky, Guyane, Mayotte. Réunion, tout peuple qui n'a pas à respecter. Lévé.
Je ne parle pas d'indépendance, je parle de respect. Je parle de dignité, je ne parle pas de réparation. Je ne parle pas de toutes les atrocités qui ont été faites à nos ancêtres. Je parle d'alignement des peuples.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Décalé sur ce qu'est la société réelle, quoi, et enfin la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi elle, c'est ça, ben il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrig à Montpellier, Canassus, à Toulouse, donc bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.